épouse, Jonathan qui va nous apporter la parole, et ils partent bientôt au Canada, donc je ne sais pas, c'est quand vous partez?
Dans le courant du mois.
Ah ouais, ça va aller vite, ils sont vite là-bas. Hein.
Ouais.
Enfin, on peut vite revenir aussi. Hein. Mais ce sera pas souvent, parce que c'est vrai que ça coûte cher, les allers-retours, là. Comme d'ici à Paris. Alors on va prier. Seigneur Père, merci Jésus de bénir Jonathan, Seigneur, que vraiment ton esprit soit avec lui et tu le fortifies, tu l'encourages. Merci Seigneur pour ce dynamisme, cette puissance, cette force que tu as mis en lui. Merci Seigneur, tu l'aides à accomplir ce ministère, tu les aides en tant que couple aussi à faire ce qui est agréable, ta volonté, bonne, agréable et parfaite que tu as préparée pour eux. Oh, tu les bénis, Seigneur. Tu bénis notre frère, Seigneur, dans la prédication, qu'il soit un instrument de grâce et de bénédiction pour cette assemblée, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, que nos cœurs soient ouverts et réceptifs pour ta parole et tu remplis sa bouche de cette parole que tu as mise en lui. Merci, Jésus. Amen.
Merci. Bonjour à tous, ça va bien? Je suis vraiment content et honoré d'être présent. Hop, je gère avec les feuilles. Donc je m'appelle Jonathan, j'ai 29 ans. Je vais terminer l'école biblique au mois de juin. J'étais allé là-bas pour faire un an et pour finir j'ai fait un master, donc je suis resté 5 ans. Donc voilà, les plans de Dieu parfois nous dépassent. Je suis marié à Sephora, donc ça va faire 4 ans au mois d'octobre qu'on est marié. Et actuellement je suis en stage pastoral à l'église de Tubize. Donc j'en profite pour remettre les salutations de l'église de Tubize et de toute l'équipe pastorale. Je remercie aussi le... Ok, on transmettra ça. Je compte aussi sur ma femme pour me le rappeler parce que... tu n'as pas de pression, hein. voilà, un grand merci pour l'accueil, pour l'invitation. C'est vraiment... vraiment un honneur. Et donc voilà, je réalise que chacun de nous, tôt ou tard, on a été confronté à des choses, à des événements ou à des personnes qui nous ont déçus. Alors j'ai un petit exemple qui parle un peu de foot. C'est lors de la saison 99-2000, il y a le RAEC Mons, une grande équipe de football qui est l'équipe de ma ville. C'est pour ça que c'est la plus grande, parce que je viens de Mons. Le club a fait faillite maintenant, donc voilà. À l'époque, ils jouaient en division 3 et c'était un petit club. Et puis ils ont commencé à gagner des matchs. Ils ont commencé à jouer en Coupe de Belgique. Ils ont commencé à rencontrer des équipes de plus en plus solides. Et puis ils gagnaient, ils avançaient. Si bien qu'un jour, ils sont arrivés en quart de finale contre le Standard de Liège, équipe de première division. Puis là, il y a eu le déplacement. Toute la ville de Mons s'est déplacée à Liège pour aller supporter l'équipe. Et face à ce club de division 1, vraiment, on y a cru jusqu'au bout, puisque Mons a perdu, mais 1-0. Et tout le monde y croyait, tout le monde se sentait des ailes qui poussaient pour aller loin, pour remporter la coupe, pour battre le Standard, etc. Et finalement, toute cette course folle s'est arrêtée juste par un sentiment de déception et de désespoir. Et j'ai encore un autre exemple, c'est un ami à moi. Donc, avant d'être chrétien, j'étais pas chrétien. Puis j'étais fan de ce club de foot, puis je faisais voilà, je criais des choses que je devais pas crier. J'étais vraiment dans le noyau dur de supporter. Et puis j'avais un ami qui s'appelait Baudouin, puis qui avait un gros souci avec la boisson. Et un jour, le lendemain d'un match, on le voit arriver, puis tout déçu, il dit mais il se passe quoi? Il dit ben Monsière, vraiment déçu, ils ont perdu le match. Je comprends pas, vraiment on s'attendait à ce qu'ils gagnent. Il dit mais ils ont gagné le match. Et maintenant ils ont perdu. Puis finalement, on réalise que le mec était tellement déçu à la mi-temps que Mons était en train de perdre qu'il a quitté le stade en pensant que c'était la fin du match. Je crois que l'alcool a aidé aussi. Et puis, il a passé la soirée complètement déçu dans son coin en pensant que Mons avait perdu alors que finalement, ils avaient gagné. Donc, tout ça, c'est un peu de l'ordre de l'humour, mais parfois dans notre vie, on se retrouve face à des situations, face à des choses qui viennent et puis qui créent du désespoir, de la déception en nous. Des circonstances qui viennent balayer tout espoir et puis toute ferveur. Par exemple, un mariage où finalement on est tout content de se marier et puis au bout de quelques mois, de quelques années, on se rend compte que c'est pas si simple que ça de vivre ensemble. Puis ça crée des blessures, ça crée des choses difficiles à vivre. Un travail, on prie pour avoir un travail, puis Dieu nous donne un travail, on rentre dedans, on est content, puis au bout d'un moment, on se rend compte que ça tourne un peu en queue de boudin. Un engagement avec Dieu, parfois. On s'engage dans les eaux du baptême, puis à un moment, on est déçu. On est déçu par l'Église, on est déçu par Dieu. Il y a parfois aussi des situations familiales compliquées. On a des enfants, on prie pour eux, pour les voir venir au Seigneur, et puis en fait, ils quittent les voies de Dieu. Puis s'ils marchent loin de Dieu, et on est juste déçu, on se demande comment ça se fait que ces choses-là arrivent. Il y a aussi parfois aussi des divisions dans l'Église, des choses qui viennent nous heurter personnellement, qui viennent déchirer notre cœur. Puis voilà, il y a juste de la déception. Pourquoi ces choses arrivent? Finalement, toutes ces choses nous conduisent à quitter le terrain sur lequel Dieu nous a placés. Et bien souvent, quand on est déçu, on a tendance à se replier sur nous, puis à arrêter peut-être de venir à l'Église. Arrêter de marcher avec Dieu. Dieu nous place parfois dans certains endroits, puis juste parce qu'on est déçu, on quitte ces choses pour retourner finalement chez nous, dans notre petite vie, dans notre petit train-train, dans notre sécurité. Et sur le chemin de la déception, en parlant de ce chemin-là, j'aimerais vraiment qu'on puisse tourner nos yeux dans la parole de Dieu, et on va voir l'histoire de deux disciples qui font route sur le chemin de la déception et voir comment Jésus est venu vraiment les sauver, les sortir de là, puis les propulser dans un plan auquel ils s'attendaient pas. Et au travers de ce texte, j'aimerais qu'on puisse découvrir trois leçons, trois petits conseils, plutôt des leçons, des choses qu'on va comprendre et qui vont nous aider à sortir de la déception pour nous propulser au cœur de la volonté de Dieu. Parce que Dieu a préparé des plans spécifiques pour notre vie, pour notre famille, pour cette église, et Dieu veut nous faire entrer dans ces plans-là. Alors le titre de mon message, c'est « Alerte à Emmaüs ». C'est une petite référence à « Alerte à Malibu » pour ceux qui connaissent. Donc, j'aimerais qu'on puisse lire dans Luc 24, versets 13 à 33. Donc, Luc 24, versets 13 à 33. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? Quoi leur dit-il ? » Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonné, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé ces choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous car le soir approche et le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Mon premier point, c'est Jésus fait route avec nous. Cléopas et son ami, ils sont en train de cheminer de manière vraiment triste. Ils sont en train de parler ensemble et ils vont vers Emmaüs. C'est à plus ou moins 3 heures de marche de Jérusalem. Et puis sur la route, ils discutent de tout ce qui s'est passé pendant ce week-end. Ils viennent de vivre un week-end vraiment chargé, un week-end à 100 à l'heure. Franchement, c'est comme un film d'action qui ça bouge dans tous les sens. On est là devant l'écran au cinéma ou quoi, on sait pas trop ce qui se passe. Puis limite, à la fin du film, il nous faut quelques minutes avant de remettre nos idées en place. Ils ont vécu quelque chose qui les a bouleversés. Ils avaient un ami qui s'appelait Jésus. C'était plus qu'un ami, c'était leur rabbin, c'était leur maître. Ils avaient tout quitté pour aller le suivre. Et puis, ils avaient plein d'espoir en lui. Ils voulaient vraiment le voir agir. Ils voulaient vraiment voir Dieu l'utiliser pour venir changer les choses dans la société, dans leur vie, etc. Et pour finir, leur ami, qui était là, proche d'eux, a fini quoi ? Ben, il a fini cloué sur une croix. Il a été dénoncé, il a été arrêté, il a été jugé, puis il a été cloué sur une croix. Sur un week-end, leur vie a totalement basculé. Ils pensaient que tout était tracé, que tout allait bien se passer, puis sur un week-end, tout a été balayé, puis ils comprennent pas ce qui se passe. Puis là, tout est fini. Jésus, il est mort. Jésus, il est dans le tombeau. Et juste la déception, et ils rentrent chez eux. Et pour bien comprendre les raisons de leur état, c'est intéressant on va relire d'ailleurs le verset 21 pour comprendre tout le cri de désespoir qui s'élève de leur cœur. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. À l'époque, les Juifs, dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu est présent, Dieu est toujours présent. Même quand ils font des bêtises qui s'éloignent de Dieu, Dieu est présent. Dieu parle tôt ou tard, Dieu intervient pour relever son peuple, pour le reprendre, etc. Et puis, à un moment, il y a un silence radio de 400 ans. Dieu ne parle plus. Des générations qui n'entendent plus Dieu parler, qui ne voient plus Dieu à l'œuvre. Et en plus de ça, on voit qu'il y a des invasions qui succèdent à ce moment-là. Dieu, on l'entend plus, on ne le voit plus, puis il y a l'ennemi qui vient envahir le peuple, qui vient voler nos affaires, qui vient imposer des lois qui nous conviennent pas, qui viennent nous agresser, voler nos choses. Et le peuple, en fait, il attendait vraiment avec languissement, il attendait Dieu, il attendait que Dieu agisse, il attendait que Dieu rétablisse le contact et instaure son royaume. Ils attendaient que Dieu intervienne puis chasse l'envahisseur, chasse les Romains et remette les choses en place. Ils attendaient une action de Dieu de ce type-là. Et pour bien comprendre, pour aller encore plus loin, c'est qu'à l'époque, tout ce qui était guerre, conquête, etc., ça avait une notion aussi spirituelle. Dans le sens où le peuple d'Israël, s'il est dominé par les Romains, c'est pas seulement le peuple d'Israël qui est dominé par les Romains. C'est le Dieu d'Israël qui s'est fait vaincre par les dieux des Romains. Ça allait juste à l'encontre de tout ce qu'ils imaginaient, de tout ce qu'ils pensaient. Finalement, ils se disent, notre peuple est vaincu, notre Dieu est vaincu, il y a plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Et à cause de tout ça, dans le judaïsme, on s'attend vraiment à la venue d'un libérateur qui allait chasser l'ennemi dehors. Alors, imaginez-vous un peu, dans votre vie, vous avez l'habitude d'entendre Dieu. Vous avez l'habitude de venir à l'église, d'entendre la parole de Dieu, de voir Dieu agir dans votre vie. Puis tout d'un coup, vous n'entendez plus rien, vous ne voyez plus rien. Puis non seulement vous n'entendez plus rien, mais il y a des problèmes qui arrivent. Il y a des gros soucis qui prennent place dans vos vies. Il y a la maladie qui vient frapper, puis vous avez juste l'impression d'être seul. Et à ce moment-là, au moment du pire désespoir, que vous pensez que Dieu a oublié toutes les promesses, il y a une voix qui s'élève, puis qui vient proclamer que l'accomplissement est proche. Et c'est ce qui se passe dans l'histoire à ce moment-là. C'est qu'il y a un prophète qui se lève et qui dit, voilà, Dieu a promis d'envoyer un libérateur et ce libérateur va venir. Puis il y a Jésus qui naît, petit à petit il y a des choses qui prennent place, on voit Jésus qui se lève, qui commence à annoncer le royaume de Dieu, qui commence à faire des miracles, c'est juste impressionnant. Puis il y a des gens qui y croient, il y a des gens qui vont avec lui, il y a des gens qui deviennent ses disciples, il y a des gens qui vivent tout ça, ils mettent leur espoir en lui, ils s'attendent, ok, maintenant le libérateur est présent, on va vivre libre, de nos ennemis. Et au moment où les choses auraient pu se mettre en place pour cette libération, on le prend, puis on le cloue sur une croix. C'est juste une grande baffe dans le visage, on sait pas ce qui se passe. On est tout enthousiaste, puis non, on passe juste à côté. On a l'impression qu'on est face à un échec. Tous nos espoirs, et je pense que c'est ça qu'ils disent les disciples, tous nos espoirs ont été cloués avec notre ami sur une croix. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Et puis nous, dans nos vies, ça nous arrive de nous retrouver dans des situations de désespoir, comme celui des disciples. Et ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a deux disciples et il y en a un des deux, il a juste pas de nom, on dit pas son nom. Et je pense que c'est un oubli volontaire de l'auteur parce que l'ami de Cléopas, ça peut être chacun de nous. On peut tous être dans cet état de désespoir, cet état où on est déçu de Dieu, on est déçu des choses de Dieu, où on s'attend à ce que Dieu agisse dans une guérison, dans des miracles, à voir nos enfants venir à lui, à voir l'église grandir, à voir tout ça, puis Dieu répond pas. Et on est juste déçu. Déçu. Et là, ils disent à Jésus, « Es-tu le seul qui ne sait pas ce qui s'est passé ?» Es-tu le seul qui ne sait pas ce qui s'est passé? Puis ça, je pense que Dieu veut vraiment parler à quelqu'un. C'est que actuellement, tu es dans une situation difficile. Tu penses que Dieu n'est pas au courant de ta situation. Tu penses que Dieu ne t'entend pas, que Dieu n'agit pas. Alors que dans cette situation, finalement, c'est le premier concerné. Ils sont en train de parler à Jésus qui lui-même a été crucifié. Tu sais pas ce qui s'est passé, toi, ce week-end? Bah, écoutez, si, en fait, je suis quand même un peu plus au courant que vous, j'étais là. Mais parfois, avec Dieu, c'est exactement ça. Et Dieu est tellement proche de nous, Dieu nous aime tellement que même nos souffrances à nous, il est limite encore plus concerné que nous-mêmes. Et on a parfois l'impression qu'il nous entend pas. Vraiment, soyez encouragés pour ça. Dieu est le premier concerné par vos soucis, par vos blessures, par vos pleurs et vos larmes. Alors qu'ils ne semblent plus avoir d'espoir, il y a Jésus qui s'approche et qui fait route avec eux. Si j'avais vécu ce que les disciples ont vécu, moi aussi j'aurais qu'une seule envie, c'est rentrer chez moi et me mettre au lit. Je crois que c'est ce qu'ils marchaient puis ils se disaient, on va aller se coucher, ça ira mieux demain. On va oublier tout ça. Et peut-être que cette situation, c'est la situation de plusieurs en ce moment. Je connais pas les circonstances de votre vie, ni les personnes ou les événements qui vous ont déçu ou blessé. Mais je voudrais vraiment vous encourager, car même si vous croyez que Dieu est loin, Dieu est proche de vous. Parce que Jésus s'approche et fait route avec eux. Jésus vient à votre rencontre et fait route avec vous. Quand Jésus est présent, tout est encore possible. Parce que quand Jésus est présent, tout est encore possible. Peu importe ce que vous traversez, si Jésus est avec vous et Jésus est avec vous, il promet, tout est encore possible. Et c'est pas parce qu'on ne le voit plus agir qu'il n'est pas à nos côtés. Il marchait avec lui, il ne réalisait même pas que c'était Jésus. Quand Jésus est présent, tout est encore possible. Il y a l'exemple de Lazare qui était mort. Il n'y avait plus d'espoir, il sentait déjà, c'était fini depuis plusieurs jours. Mais parce que Jésus est présent, parce que Jésus arrive, alors qu'il y a un cadavre devant lui, il prononce des paroles qui créent la vie, et il ressuscite Lazare, il ressuscite des situations. Face à la mort d'une situation, d'une relation, de choses qui paraissent mortes devant toi, quand Jésus est présent, il peut ressusciter. Il peut le faire. Faut pas perdre espoir. Les deux disciples ne savaient pas encore, mais Jésus chemine avec eux. Et de la même manière qu'il était présent à leur côté, il est présent à nos côtés. Alors aujourd'hui, je pense vraiment que Jésus invite plusieurs à croire que votre désespoir, que dans votre désespoir, Jésus est présent. Et Jésus peut changer les circonstances. Même s'il ne change pas les circonstances, il peut changer votre perspective. Si Jésus fait route avec vous, c'est qu'il est concerné. Et s'il est là, tout est encore possible. Et mon deuxième point, c'est la parole qui est un pacemaker de notre foi. Ce qui vient recréer la foi en nous. Et jusque là, on va donc lire le verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jusque-là, Jésus n'intervient pas directement. Il est juste présent, puis il entend les deux gaillards en train de se lamenter, en train de pleurer, de dire que ça va pas, que tout est fini. Et en fait, ça me fait penser à un pêcheur, pas un pêcheur qui commet des péchés, un pêcheur qui va à la pêche. On voit Jésus qui amène la ligne, et il attend simplement que le poisson vienne mordre. Et puis il prépare. Et le moment où il voit qu'ils sont juste prêts à avoir un retour, il vient les cueillir pour les cuisiner et pour recréer quelque chose en eux. Par leur parole, ils démontrent leur manque frappant d'espoir et de foi. Alors quelques versets plus tôt, on voit que les femmes vont au tombeau. Disent « Ok, Jésus il est plus là, il est ressuscité, il y a des choses qui se passent, il y a des promesses qui s'accomplissent, reviennent voir les disciples, puis il y a presque personne qui les croit, Pierre y va, il voit le tombeau vide, mais point d'interrogation, on ne sait pas trop ce qui se passe. » Par ce qu'ils disent et par ce qu'ils vivent, on voit que la foi elle n'est pas là. Et tout au long de leur discussion avec Jésus, jusqu'au verset 24, ils s'enfoncent. Il n'y a plus d'espoir, c'est pas possible, tout est perdu, Jésus est mort, c'est fini, c'est terminé. Puis le moment où ils touchent le fond, je crois qu'ils peuvent pas tomber plus bas en fait, Jésus intervient. Et je suis étonné de voir comment c'est à ce moment précis que Jésus intervient. C'est comme s'ils pouvaient pas tomber plus bas, et juste là il vient recréer quelque chose. Et parfois dans nos vies c'est la même chose. On pleure, on se plaint, puis ça va pas. Puis ça va pas, puis on coule, et on continue à couler. Et une fois qu'on touche le fond, Jésus intervient. Parce qu'une fois qu'on touche le fond, on sait plus descendre plus bas, puis on est juste obligé d'attendre. Il y a une porte qui s'ouvre, et Jésus lui a dit « Ok, maintenant on se met en route, puis on va créer quelque chose dans votre cœur. » C'est comme si les disciples s'étaient pris un iceberg. Ça me fait penser au Titanic en fait. Ils avancent, ils se prennent l'iceberg, puis ils coulent. Et nous, parfois, c'est pareil. On avance avec Dieu, on avance dans la vie, puis il y a des événements qui viennent, qui nous refroidissent, qui refroidissent la foi, puis on est là, juste spectateur, de voir notre bateau couler. Mais puisque Jésus est là, tout est encore possible. Et Jésus intervient au travers de sa parole. Parfois, on se dit que Dieu tarde à intervenir. Mais j'ai lu une citation qui dit « Dieu est peut-être rarement en avance, mais une chose est sûre, c'est qu'il n'est jamais en retard. » Dieu est pas souvent en avance, mais il est jamais en retard. Quand il intervient, c'est toujours au bon moment. Et je le sais parce que quand j'ai fait mes études, je suis assistant social avant d'aller à l'école biblique, j'ai fait des études pour être assistant social. Je suis pas un bon étudiant, vraiment pas. J'aime être étudiant, mais j'aime pas étudier. J'aime apprendre, mais j'aime pas lire des livres, j'aime pas faire des examens, voilà. Et Et j'ai vécu un miracle pendant 3 ans. J'avais des examens de passage, j'avais des examens à repasser, puis Dieu, à chaque fois au dernier moment, intervenait et me permettait de réussir. Il y a même des profs qui m'ont dit, Jonathan, t'avais 7 examens à repasser cet été, c'est un miracle que t'aies réussi. Je dis, ben oui, c'est un miracle, c'est vraiment ça. Puis la dernière année, j'avais mon mémoire à faire, j'avais pas terminé évidemment, du coup je l'ai reporté en septembre, mais j'avais 5 examens à repasser en plus. Et Dieu est intervenu. Dieu est intervenu, puis j'ai eu mon diplôme, j'ai pu aller à l'école biblique, et puis voilà, tout ça a pu commencer à prendre place. Ou encore, Sephora et moi, au début de mariage, financièrement, c'était pas top. Il y a une période où on vivait avec plus ou moins 600 euros par mois, avec un loyer de 500 euros. Et c'était serré, effectivement. mais honnêtement, et pourtant, moi, j'ai jamais appris à vivre financièrement par la foi. J'étais pas riche, mais j'avais ce dont j'avais besoin. Voilà, j'ai jamais appris ça. Mais Dieu intervenait toujours au bon moment. On n'a jamais été sans rien. Dieu intervenait. Il y a des voisins qui apportaient à manger. Il y a un chèque qui venait. Voilà. Et au fur et à mesure, on voyait Dieu agir. Ce qui fait que, franchement, on n'avait plus ce stress de l'argent. Voilà. On savait que Dieu intervenait. Mais de la même manière, Dieu va intervenir dans ta situation. Il est jamais en retard, il est toujours au bon moment. Et Jésus commence à leur parler au verset 25. « Ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire ce que dit les prophètes. » Ça, c'est une parole de réconfort. Jésus, ça va pas. Mais tu manques de foi, t'as aucune intelligence. Pourquoi tu crois pas en la parole? On imagine toujours Jésus qui vient, puis il a vraiment une claque. C'est vraiment un bon pédagogue, hein, Jésus. Là, on se dit, niveau encouragement, 0. Mais finalement, non, mais on pourrait croire, c'est vrai. Mais à première vue, ça semble violent. Mais finalement, je crois que c'est une preuve d'amour, parce qu'il vient comme créer un électrochoc, il vient les confronter à la parole. Puis au moment où ils sont confrontés à la parole, il y a comme cet électrochoc qui se crée, puis c'est pour ça que j'ai dit que c'était un pacemaker, c'est que ça vient relancer, ça donne le coup de jus nécessaire pour relancer la foi. Puis au travers de sa parole, il y a la foi qui vient et qui se recrée petit à petit chez eux. Et donc Jésus parfois nous confronte au travers de la parole. Les versets qui suivent nous montrent vraiment l'intention de Jésus. Il est en train de leur montrer qui ils sont et ce qu'ils vivent par rapport à la parole. Il les place devant la triste réalité. C'est comme si Jésus pointait leurs problèmes et puis petit à petit, il est en train de les orienter vers la solution. Mais au moment où Jésus montre nos problèmes, où on est face au miroir de la parole, parfois ça fait mal. Le matin, quand on se regarde dans la glace, parfois ça fait mal. Ma femme a peur parfois le matin. Et parfois quand on est confronté à la parole de Dieu, quand on ouvre la parole de Dieu, ben c'est des claques qu'on peut avoir. Mais c'est des claques qui créent la vie en nous. Et c'est nécessaire. Alors peut-être que c'est difficile pour certains d'ouvrir la parole parce que ça fait trop mal parfois. Mais que vous puissiez avoir cette perspective, c'est qu'au travers de cette petite violence qui vous est faite par la parole, il y a la vie qui va reprendre en vous. Et j'ai une illustration. C'est fou, et moi, on a une amie qui est chrétienne, qui était déjà chrétienne à l'époque, et qui est animatrice dans des camps de jeunes. Puis l'orateur prêche, et c'est un orateur qui, à un moment, a prêché sur le sexe avant le mariage. Puis elle était chrétienne, mais elle avait un copain qui n'était pas chrétien, puis elle consommait le mariage avant l'heure, on va dire. Et face à cette parole de Dieu, c'était dur. Ça lui a fait violence. Elle est sortie de la salle. Elle a été dans un bois. Elle s'est mise à hurler. Elle dit, mais Dieu, mais je peux pas. Non, je refuse ça. Et je peux pas imposer à mon copain d'obéir à ta parole alors que lui, il a rien demandé. C'est impossible. Je peux pas faire ça. Puis elle criait. Elle était confrontée. C'était dur. Puis finalement, elle décide d'accepter. Ça a pris plusieurs jours dans le camp. Et elle décide d'accepter puis d'appliquer. Et donc, quand elle revient du camp, elle parle avec son copain, puis voilà, il lui dit, écoute, non, je peux pas me soumettre à ton Dieu, alors que c'est pas encore mon Dieu. Et pour finir, ils restent ensemble. Puis pour finir, voilà, les choses se règlent à ce niveau-là. Petit à petit, par son témoignage à elle, par les relations, ce garçon s'est ouvert à Dieu. Il a donné sa vie à Dieu. Puis ils ont fini par se marier. Puis ils ont ouvert une cellule de maison chez eux. Et maintenant, ils sont responsables de groupes de jeunes. C'est-à-dire que quand Dieu te confronte à des choses difficiles dans la parole, si tu acceptes de te soumettre, il y a toujours des miracles et des bonnes choses qui peuvent prendre place. Cette fille, si elle avait refusé, qu'elle avait continué à s'obstiner dans sa voie, tout ça ne se serait pas passé. Et elle a accepté de prendre le risque de perdre son copain, mais c'était pour mieux le gagner finalement. Avec le recul, c'est vraiment, vraiment fou ce que Dieu peut faire. Jésus pointe parfois le problème dans nos vies, mais si on accepte de se soumettre, il nous accompagne vers la solution. Et au verset 32, ils se disent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures. Une des choses qui m'émerveille dans la Bible, c'est de voir que dès le début, Dieu crée par sa parole. On n'a pas idée de la puissance que la parole, elle peut avoir. Il n'y avait rien, et Dieu, par sa parole, il crée. Il crée la vie, il crée le monde. Il a tout créé par sa parole. Et là, je me prêche à moi-même. Mais quand j'ouvre la parole, il faut que je me souvienne, et que chacun de nous puisse se souvenir que c'est cette même parole qui a créé de rien, qui a créé la vie, qui a créé l'univers. Ça peut avoir le même effet en nous. Là où il n'y a rien qui existe, là où il y a la mort qui règne, la parole peut créer la vie. La parole peut recréer la foi pour des situations où on pense qu'il n'y a plus d'espoir. Et cette foi va nous permettre de saisir la victoire et puis de remporter le combat et de voir Dieu à l'œuvre. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je pense que parfois on a vraiment besoin que Jésus vienne rafraîchir notre mémoire en ce qui concerne sa parole. Ici, ce que Jésus fait, c'est décentrer le regard des disciples de leur propre compréhension de la parole et des circonstances pour centrer leur regard sur Jésus. Et la parole, pour bien la comprendre, la clé, c'est Jésus. Interpréter la Bible de l'Ancien au Nouveau Testament au travers de Jésus, c'est le point central. C'est ce qui nous permet de donner sens. Il y a des choses qu'on comprend pas dans la parole, des choses qu'on comprend pas dans nos vies, qu'on ne peut comprendre que quand on réalise qui est Jésus. Parfois, on a besoin que Dieu rallume le feu, qu'il rallume ce qui est éteint en nous. Et même si l'électrochoc peut parfois faire mal, je vous invite vraiment à revenir à la parole. En fait, c'est la base, mais voilà. On change pas une recette qui fonctionne. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Et même si l'électrochoc peut parfois faire mal, je vous invite vraiment à revenir dans cette parole. Alors que pour eux, il n'y avait plus d'espoir, quelque chose a commencé à changer lorsque Jésus leur a fait découvrir ce qui le regarde dans les Écritures. Ça devait être une fameuse étude biblique quand même. Jésus qui leur explique, qui leur fait une étude sur Jésus dans la Bible. C'est fou. Ça devait être costaud, ça devait être bien. Et de la même manière, il y a des choses qu'on ne pourra comprendre dans nos vies que si on revient à la parole. On a besoin d'avoir la perspective de Dieu sur chaque situation qui nous entoure. Et j'ai lu une citation il y a quelques jours. C'est « La Bible, nous pouvons y chercher quelque chose ». Mais tôt ou tard, nous y rencontrerons quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. La Bible pointe vers Jésus. Et parfois, on voudrait connaître plus Dieu, on voudrait connaître plus Jésus, et c'est au travers de la parole. On peut parfois chercher des informations dans la Bible, la lire de manière historique ou quoi que ce soit. Mais cette parole, elle crée la foi et elle nous amène toujours à Jésus. Et c'est une des clés qui nous permet de nous rapprocher de Jésus-Christ. Et enfin, mon dernier point, c'est l'intimité avec Dieu qui est un révélateur et un propulseur. Je vais expliquer ça. Donc, on peut lire le verset 29 et 33. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche et le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Et verset 33. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Alors qu'ils approchent de leur destination, Jésus semble vouloir continuer. Jésus, il aime bien faire des blagues comme ça. Il savait très bien qu'il n'allait pas continuer le chemin. Et fait-il, est-ce qu'ils vont m'inviter? Et alors, eux, ils commencent à le presser et dire, il faut que tu viennes. Là, ça va commencer à devenir dangereux, commence à faire nuit, etc. Il faut que tu rentres et que tu viennes avec nous. Puis à l'époque, le temps du repas, faut que tu rentres, donc ils lui disent rentre avec nous, puis on va manger ensemble. Et à l'époque, le temps du repas, c'est un temps de communion. C'est pas un temps où il y a Facebook, où il y a des iPhones, des iPads, où chacun mange derrière son écran, puis on se parle pas. C'est un temps où on prend le temps de parler, de rencontrer les gens, de discuter avec eux. Et qu'est-ce que ça signifie? C'est que Jésus veut souper avec nous. Jésus veut passer du temps avec nous. Il veut qu'on vienne dans sa présence. Il veut entrer dans nos vies. Il veut prendre le temps de parler avec chacun de nous dans notre intimité. À l'heure actuelle, c'est vrai qu'on se dit souvent qu'on n'a pas le temps parce qu'il y a énormément de choses à faire. Il y a le travail, il y a les enfants, il y a plein de choses. Mais sachez que Dieu vous appelle à revenir dans l'intimité. À prendre le temps. Avoir cette discipline à un moment de dire ben, je vais pas aller sur Facebook ou je vais pas regarder la télé ce soir, mais je vais aller devant mon roi puis passer du temps avec lui. Dans Jean 13, au moment du repas, on voit qu'il y a un disciple qui était couché sur sur Jésus, sur la poitrine, puis finalement je me dis là, je tire un peu le texte, mais c'est une image qui m'a vraiment parlé. C'est comme si ce disciple était tellement proche de Jésus qu'il pouvait entendre son cœur battre. Et je crois que dans l'intimité avec Dieu, on peut entendre le cœur de Dieu battre. Dieu peut nous révéler des choses et Dieu peut créer des choses en nous pour changer notre destinée. Parce que la présence de Dieu, comme j'ai dit dans le premier point, tout est possible dans la présence de Dieu. Et Dieu veut créer quelque chose de puissant en nous. La route entre Jérusalem et Emmaüs a duré que quelques heures, mais peut-être que pour vous aujourd'hui, votre cheminement sur la route de la déception dure depuis des jours, des mois ou des années. Et durant tout ce temps, vous vous posez beaucoup de questions. Et au fur et à mesure de leur route, les disciples ont pu comprendre les choses. Jésus veut te révéler des secrets. Jésus veut donner sens à ce que tu vis. Alors c'est vrai qu'il y a des circonstances dans ta vie, des situations que tu as vécues auxquelles tu n'auras pas de réponse. Mais Dieu peut changer tes perspectives et peut te permettre d'avoir certaines réponses qui vont t'aider à avancer. Il y a quelque chose qui se passait au moment où ils étaient intimes avec Dieu. Et il y a deux moments clés dans ce texte. C'est que Jésus vient les rejoindre et fait route avec eux. Et le deuxième moment clé, c'est les disciples qui l'invitent à entrer. Puis il y a un moment dans notre vie où il faut inviter Jésus à entrer. On peut venir à l'église, entendre parler de Dieu, puis marcher côte à côte avec Jésus sans forcément d'avoir d'intimité. Puis à un moment, il faut prendre le risque d'ouvrir son cœur et dire « Ok, moi je veux bien expérimenter quelque chose avec toi ». Il y a plein de fois dans notre vie où Jésus fait semblant d'aller plus loin, juste il attend qu'une chose, c'est qu'on l'invite à rentrer chez nous, puis à prendre un temps avec nous. Commencer à remettre de l'ordre dans notre vie. Puis il y a certains qui passent leur vie comme ça à marcher côte à côte avec Jésus sans l'inviter. Alors que le but de sa présence, c'est de venir en toi. Parce que tant qu'il n'est pas en toi, le miracle, il y a des miracles qui vont prendre place autour de toi, il y a des signes qu'il va faire pour attirer ton attention, mais un changement de vie ne pourra pas avoir lieu. Et il y en a, vous vivez des choses vraiment pas chouettes. Dans votre vie, il y a des choses qui se passent qui sont douloureuses. Mais tant que Jésus n'entre pas, que vous ne laissez pas, vous ne prenez pas ce risque de laisser entrer Jésus, ça va continuer comme ça. Alors, suivre Jésus, accepter Jésus, devenir chrétien, ça ne veut pas dire que vous n'allez plus avoir de problèmes. Ça veut dire que vous ne seriez plus jamais seul dans les problèmes. Et surtout, vous allez passer l'éternité avec lui. où là, il n'y aura vraiment plus de problèmes. Il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de douleurs. Dieu est une personne dont il faut faire l'expérience et non un savoir à communiquer. Les disciples avaient entendu dire que Jésus était ressuscité, mais maintenant, au moment de l'intimité, leurs yeux s'ouvrent et ils réalisent, c'était vrai, Jésus est vivant. Il faut qu'on réalise ces choses-là. On a beau en entendre parler, si on ne réalise pas cette vérité, ce ne sera pas vivant. Et si ce n'est pas vivant, on ne pourra pas suivre. Parce que marcher avec Dieu juste intellectuellement, c'est pas possible. C'est avec notre cœur, puis il nous donne la force de le faire. Il faut que tu expérimentes la vie de résurrection de Jésus. Toute la discussion sur le chemin avec pour seul et unique but, c'était entrer dans le quotidien et dans la demeure de ses disciples. Dans l'intimité avec Dieu, tes yeux vont s'ouvrir à sa réalité. Tu sais, il y a certains événements dans ta vie, et je reviens plusieurs fois là-dessus parce que je crois que c'est vrai. Il y a des événements dans votre vie qui ne prendront sens qu'au moment où vous accepterez de laisser Jésus entrer dans votre intimité. Verset 33, il y a quelque chose qui se passe. Ces disciples voyaient la croix comme un échec. Ils voyaient la croix comme la fin, alors que la croix c'était que le début. La plus grande victoire de l'humanité, il la percevait comme une défaite. Puis c'est ça que je veux dire. C'est que parfois, il y a des situations dans vos vies où vous avez l'impression que c'est l'échec, que c'est la mort et que c'est fini, alors que Dieu est en train de créer un miracle, vous vous rendez même pas compte. Puis c'est en ayant sa perspective sur ces choses que vous allez réaliser ça. L'intimité avec Jésus a été le moteur qui les a propulsés au cœur de l'action. Ils étaient déçus, ils allaient se coucher, et puis là, il y a le boomerang qui se met en place, puis ils retournent à Jérusalem. Ils rencontrent Jésus, réalisent, puis là, c'est plus aller sur le banc de touche, c'est plus aller dans le banc de spectateurs, c'est « Oh, il y a quelque chose qui se passe, on va retourner avec les autres. » Et ce qui m'interpelle, c'est que l'évangile de Luc a été écrit par Luc, puis le livre des Actes a été écrit par Luc. C'est comme s'il y avait une deuxième mi-temps et comme mon pote qui avait cru que Mons avait perdu était rentré chez lui à la mi-temps, il réalisait pas qu'il y avait la fin du match qui était là. Et peut-être que vous avez vécu des moments difficiles dans votre vie qui font que vous avez quitté le terrain, puis vous êtes sur le banc de touche. Vous étiez investi avec Dieu, puis vous avez tout abandonné par mauvaise expérience, par douleur, par situation compliquée, et vous êtes sur le banc de touche. Mais Dieu vous dit qu'il ne vous veut pas là, il vous veut sur le terrain. Il y a encore un match à gagner, il y a encore une mi-temps à jouer, il y a d'autres matchs à gagner. Il faut retourner sur le terrain. Dieu vous appelle à pas abandonner. Élisée et son serviteur dans Deux Rois, c'est un texte qui m'interpelle, c'est que il y a le serviteur d'Élisée qui sort, puis il voit l'ennemi qui est là. Il y a des chars, il y a des chevaux, puis ils sont juste prêts à se faire zigouiller. Et Élisée, il sort, je l'imagine, hein, j'imagine beaucoup de choses en fait, tranquille, en peignoir, je sais pas, il se passe quoi là ? Eh, on va se faire avoir. Tu n'as pas la perspective de Dieu. Je vais prier pour toi. Et il prie pour lui, puis là, il voit au-dessus, il voit les chars de feu, il voit l'armée du ciel qui est là, puis il réalise que l'ennemi est vraiment un petit ennemi par rapport à l'armée de Dieu qui est à leur disposition. Et je pense que c'est ça que Dieu nous invite à faire. C'est dans cette perspective-là qu'on doit être. Et dans quelques instants, je vais prier pour vous. Et donc, on arrive à la conclusion. Si le désespoir vient s'imposer à vous, j'aimerais vraiment que vous puissiez vous rappeler ceci, c'est que Jésus, il fait route avec toi. Jésus fait route avec toi. Les gens vont te décourager, les circonstances vont te faire croire que tout est fini, mais ta force est de savoir que Jésus est avec toi. Et quand Jésus est présent, tout est encore possible. Puis que tu puisses réaliser que la parole va recréer la foi en toi. Et quand le désespoir vient et semble être ton quotidien, Alors que tout autour de toi semble définitivement désespéré et sans espoir, il y a une seule personne qui est en mesure de venir recréer la lueur d'espérance. Lui qui est l'auteur de la foi est capable de recréer la foi au travers de sa parole. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors vraiment nourris ta foi de la parole et puis tu vas voir que ton désespoir petit à petit il va diminuer. Parce que plus tu as la foi, plus tu as l'espoir. Et plus tu as l'espoir, moins tu as le désespoir. Je peux être philosophe parfois. Et enfin, la présence de Dieu va t'ouvrir les yeux puis va te propulser dans les plans de Dieu pour ta vie. Ils pensaient que tout était fini pour eux. Ils avaient perdu leur espoir, leur ami, leur mentor, leur maître et même leur statut. Mais Dieu avait une deuxième mi-temps à leur faire jouer. Dieu avait un match à leur faire gagner. Et je crois que ça parle à plusieurs. C'est qu'avec Dieu, ce qui ressemble à un échec, parfois c'est que les prémices d'une victoire et d'une réussite. J'aimerais juste qu'on puisse peut-être tous se lever, puis on va fermer les yeux. On va passer un temps de prière. Dieu est et sera toujours le vainqueur. Puis même si tout semble aller à l'opposé de ce que tu imagines, il reste aux commandes. Mais le miracle ne peut prendre qu'au moment où tu es dans l'intimité avec lui. Et ce qui est fou, c'est de voir que ses disciples, ils étaient en train de couler, de marcher et de quitter les voies de Dieu. Mais Jésus est venu les sauver. Jésus est venu, il s'intéressait à eux, il a été vers eux, il a été leur tendre la main, il a passé du temps avec eux, il leur a parlé. Et puis, il y a quelque chose qui s'est créé. Et ça te parle peut-être. C'est qu'autour de toi, il y a peut-être des gens qui ne t'ont jamais, sont pas vraiment intéressés à toi. Il y a des gens qui auraient dû prendre soin de toi, puis qui n'ont pas pris soin de toi. Il y a des gens sur qui tu comptais, puis qui t'ont déçu, qui t'ont trahi, qui t'ont mis des couteaux dans le dos. Sache qu'avec Dieu, ça se passe pas comme ça. Dieu s'intéresse à toi, Dieu t'aime, et tu es important aux yeux de Dieu. Au point que non seulement Jésus a été les rencontrer sur ce chemin, mais au point que Jésus était Dieu, il a tout quitté, puis il est venu sur terre comme être humain pour donner sa vie pour toi. Alors, si ces choses-là te parlent, si toi tu réalises maintenant que tu as besoin de placer ta main dans celle de Jésus, puis d'accepter de le laisser entrer dans ta maison, il y a un risque à prendre. C'est quelque part faire tomber les masques et puis devenir vulnérable. Mais les hommes t'ont déçu, mais Jésus te décevra pas. Alors si c'est ton cas, simplement je t'invite à lever la main là où tu es. Merci. Merci. Et peut-être que ce message, toi qui es chrétien, te parle. Tu marchais avec Dieu et la déception est venue s'imposer à toi. Peut-être dans l'église, peu importe. Et cette déception fait que aujourd'hui tu marches, tu rentres chez toi, tu quittes les choses de Dieu, tu quittes ton ministère, tu quittes ce dans quoi tu étais investi. Puis Dieu te parle et te dit, j'ai encore une mi-temps à te faire jouer. Si ça vous concerne, que vraiment on puisse lever la main maintenant. Merci. Merci. Je vais juste prier. Seigneur, je te remercie pour ta vie. Seigneur, je te remercie parce que tu marches avec nous, même quand ça va mal. Même quand on est déçu de Dieu, tu es avec nous, puis tu nous lâches pas. Tu veux nous récupérer, tu veux nous sauver, tu veux nous ramener auprès de toi, Seigneur. Et que tous ceux, Seigneur, qui ont été déçus par la vie, qui font qu'aujourd'hui ils marchent loin de toi, tu puisses maintenant en Dieu. Tu vois, ceux qui ont levé la main, va les toucher leur cœur, va recréer la vie en eux, Seigneur. Qu'ils puissent revenir à toi, revenir à ta parole et expérimenter le miracle et qu'ils puissent vraiment avoir ce déclic qui va les renvoyer sur le terrain. Parce qu'il y a encore des matchs à gagner, Seigneur. Seigneur, je veux te prier pour ceux qui te connaissaient, qui marchaient avec toi, mais qui ont besoin maintenant de te laisser entrer dans leur cœur et dans leur vie. Que tu puisses intervenir maintenant. qu'ils puissent avoir le courage d'ouvrir leur cœur, puis que tu puisses venir passer du temps avec eux, souper avec eux, et que ta vie puisse prendre place. Merci de prendre soin d'eux, Seigneur. Merci pour cette vie que tu crées en eux, Seigneur. Puis Seigneur, je veux te prier pour ceux qui se posent peut-être la question de quitter le terrain, qui ont vécu des temps difficiles, mais là, ils sont en train de se dire, je vais quitter le terrain, je vais jeter l'éponge. Seigneur, va te révéler à eux, Seigneur. Ils doivent rester sur le terrain. Donne-leur la force, pas avec leur force, Seigneur, parce qu'ils ne peuvent pas maintenant, ils ne peuvent plus. Mais va vraiment insuffler ta force pour que vraiment ils puissent rester sur le terrain et gagner le match. Merci pour ta fidélité, pour ton amour, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.